Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore heureux. Voici une nouvelle de Véronique Bizot, intitulée Berlin, tirée de son recueil de nouvelles Futur parfait, édité chez Actes Sud. Berlin. Nous sommes venus pour acheter une voiture, dit Savina Helberg au concessionnaire. Et Paul Helberg, son frère, a l'air de penser que c'est une évidence. Ils sont entourés de véhicules à vendre. Notre voiture est très vieille, dit-elle au concessionnaire. Un kilométrage astronomique, pratiquement 200 000 km au compteur. Comme voiture, nous n'avons jamais eu qu'elle. Nous y sommes attachés. Mais pouvons-nous encore lui faire confiance ? Paul Helberg prétend que oui. Il prétend que c'est une voiture increvable. Il ne voit pas l'utilité d'en changer. Mais Savina Helberg n'est pas philosophe comme l'est son frère. Le matériel ne l'indiffère pas comme il l'indiffère lui. Et elle en a assez de rouler dans une aussi vieille voiture. Bien que 200 000 km pour les gens de la campagne, ce ne soit rien du tout. Les gens de la campagne, a-t-elle observé, poussent leur voiture au moins jusqu'au double. Toutes les voitures à la campagne atteignent pratiquement les 400 000 km. Les campagnards, les rafistoles, à longueur de week-end. Ils savent comment procéder. Et s'ils ne savent pas, ils ont un ami ou un beau-frère qui sait. Ici, à la campagne, ils échangent constamment leur savoir-faire. Tu me rafistoles mon moteur et je te rafistole ton électricité. C'est ainsi que marchent les choses. C'est ainsi que le samedi, dès la première heure, on les voit aller et venir dans les rues du village avec leurs parpaings, leurs câbles et leurs tasseaux, musclés, vaillants et, suppose-t-elle, certainement capables. Bien que son frère prétende que ce sont tous des êtres parfaitement obtus et grossiers. Après quoi, il y a ces barbecues. Chaque week-end, la fumée de ces barbecues et les cris des enfants qui perturbent le travail philosophique de son frère. Mais il est un fait qu'ils ne sont pas, Paul Helberg et elle, réellement de la campagne. Ils sont avant tout des citadins échoués à la campagne, si bien qu'il n'y a, dans les alentours, personne avec qui ils seraient en mesure d'échanger quoi que ce soit. Les gens du village ne veulent bien entendu rien savoir de la philosophie et de la connaissance philosophique de Paul Helberg, rien savoir de Spinoza, de Schopenhauer et d'Althusser. Quant à elle, pas ou plus de talent particulier, rien si ce n'est une petite aptitude à tenir leur maison propre et vaguement le jardin. Le concessionnaire leur serre la main et se présente. Norbert Millevoye, dit-il. Après quoi, il slalome à sa suite entre les voitures exposées jusqu'à son bureau où il les prie, non sans une certaine douceur empressée, de s'asseoir. En fait de bureau, une simple table blanche installée au milieu des véhicules, à la droite de Savina, un capot rutilant, à la gauche de Paul, un autre capot rutilant, et sur cette table blanche, une orchidée rose et un ordinateur couvrent Norbert Millevoye. « Vous cherchez du neuf ou de l'occasion ?» leur demande-t-il. Et aussitôt, elle pense du neuf. Certainement pas de l'occasion. « Une voiture neuve, » dit-elle. Et Norbert Millevoye dit « du neuf, parfait. Le neuf, c'est la confiance absolue. Et la confiance au volant, c'est primordial. » Il n'échappe pas à Savina que ce terme de « confiance », elle vient elle-même de l'employer, révélant sans doute à Norbert Millevoye quelque chose d'elle, dans quoi, en commercial avisé, il s'est immédiatement engouffré. Et c'est alors qu'elle s'aperçoit qu'il manque à cet homme deux dents dans le haut de la bouche, un trou qui fait un contraste étrange avec le décor aseptisé de la concession. « Oui, dit-elle, nous voudrions maintenant une voiture dans laquelle nous puissions rouler en toute confiance. » Et Paul Elberg déclare que pour ce qui est de rouler en toute confiance, leur voiture est parfaite. « Oh, ça, monsieur, dit Norbert Millevoye, à ce stade kilométrique, on ne peut hélas rien affirmer. À ce stade kilométrique, il vous faut à tout moment envisager l'imprévu. » À quoi Paul répond qu'il n'a précisément cessé, depuis qu'il est sur Terre, d'attendre l'imprévu. Ce qui, naturellement, est entièrement faux, pense Savina Elberg. Du plus loin que l'on remonte dans son existence, mon frère n'a fait que fuir l'imprévu. L'idée même d'imprévu l'a continuellement plongé dans la plus grande angoisse. Comme le plonge dans la plus grande angoisse la perspective de ne plus rouler dans notre vieille voiture de toujours, dont il tient la clé serrée dans son poing maigre. Pour lui faire lâcher cette clé, Savina pense qu'elle doit désormais s'en remettre entièrement à Norbert Millevoye, qui vient maintenant de poser une question incompréhensible sur le type de motorisation qu'il souhaite. « Tu exagères, » dit-elle à son frère, « comme toujours tu exagères. » Et à Norbert Millevoye, elle dit « Peu nous importe les capacités du moteur », tout en pensant que son frère a effectivement réussi à éviter l'imprévu. Exception faite de sa femme qu'il a quittée pour le mari de Savina, mais là n'est pas le sujet, pense-t-elle. Exception faite également des 8 mois d'hôpital que lui a valu ce train dans lequel il est monté il y a 2 ans et qui, à hauteur de Limoges, est tout à coup sorti de sa trajectoire pour s'en aller, couché sur le flanc, serpenté à travers champs. De tout temps, elle a entendu son frère dire qu'il ferait, le cas échéant, un malade impossible. Comprendre impossible pour lui-même. De sorte qu'il s'est un jour inscrit à un club de tir, où il a obtenu un permis de port d'armes, puis a aussitôt couru s'acheter un pistolet. À cet hôpital de Limoges, Paul Elberg s'est en effet comporté comme un malade impossible, dont on n'a pas été certain de pouvoir conserver la jambe gauche. Cependant, pas une fois il n'a réclamé son pistolet. Et après qu'il n'eut finalement, grâce au médecin de Limoges, pas été amputé de cette jambe gauche, lorsqu'elle lui a fait observer qu'il avait paru avoir complètement oublié l'existence de ce pistolet, il a déclaré que bien au contraire, ce pistolet n'avait à aucun moment quitté son esprit. Sans la pensée de ce pistolet constamment présente, lui a-t-il dit, je me serais certainement tué. Je pensais à une berline, dit-elle à Norbert Millevoye, un terme qu'elle prononce avec plaisir pour ce qui lui évoque de souplesse, de confort, de vitesse harmonieuse et pourquoi pas de siège en cuir. Savina pressent qu'elle-même ferait une malade impossible. Les bons malades, croit-elle savoir, sont sauvés par une forme de candeur tranquille. Or, il y a trop d'inquiétude en elle, de cette sorte d'inquiétude qui enflamme les tissus et affole les cellules. Aussi est-elle heureuse, au cas où les choses tourneraient mal, de connaître la combinaison du coffre où, conformément à la loi, est enfermé le pistolet de son frère, là-haut dans un placard du palier. « Oui, dit-elle à Norbert Millevoye, une berline. » Et elle se tourne sur son siège pour regarder les véhicules. « Celle-ci, tenez, dit-elle en désignant un modèle gris, robuste, étincelant sous les spots de la concession. » Mais éventuellement dans une autre couleur, ajoute-t-elle. Et aussitôt Norbert Millevoye fait apparaître une brochure qu'il ouvre sur une palette de coloris. Blanc glacier, dit-elle, bleu iceberg, rouge flamme, orange Arizona. Elle pointe une couleur du doigt en interrogeant son frère du regard. Brun caribou, dit Norbert Millevoye, très élégant. Vous pouvez également la voir en biton, c'est-à-dire avec toit et jonc de calandre noir.
Encore heureux, encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Les philosophes n'auront été d'aucun secours à mon frère pendant ces 8 mois d'hôpital, songe Savina. Pas plus que ne le serait pour moi ma méconnaissance de la philosophie. Car il faut admettre que je n'ai absolument pas l'esprit philosophique, malgré l'insistance quotidienne de mon frère à me faire lire les philosophes, ou pire, à me lire à haute voix de la philosophie. Cette plante a besoin d'eau, s'avise-t-elle en observant l'orchidée sur la gauche de Norbert Millevoye. Il y en a une autre sur le comptoir d'accueil. L'orchidée, C'est banalisé, pense-t-elle. Il y a encore quelques années, c'était une fleur rare et chère, qu'on trouve maintenant par lots entiers dans tous les Leroy Merlin et dans toutes les concessions automobiles, comme elle a pu le constater. Une fleur écœurante, pense-t-elle, un argument commercial dans sa version clonée. Par ailleurs, très peu assortie à Norbert Millevoye, aussi fraîche qu'il a l'air fatigué, avec ses paupières tombantes et ses deux dents manquantes. D'une part, cette orchidée rose, de l'autre, ce trou noir dans la bouche de Norbert Millevoye. Bizarre qu'on l'ait engagé pour vendre des voitures neuves avec ce trou dans la bouche. Trou qui accapare malgré soi l'attention quand il faudrait plutôt se concentrer sur les options de la voiture qu'inventorie Norbert Millevoye. Concentre-toi, se dit Savina Helberg. On part donc sur un pack premium, conclut Norbert Millevoye en s'attelant à son ordinateur. Laissez-moi voir ce que je peux vous faire là-dessus comme proposition. Savina examine la brochure et se retourne pour regarder à nouveau la voiture grise, le gris Cassiope, qu'elle tente de se représenter dans sa version brun caribou. Imagine le plaisir que nous allons avoir dans une voiture neuve, dit-elle à son frère. Imagine toute cette route que nous allons pouvoir faire, de belles heures de conduite devant vous. Une route que vous verrez d'un tout autre œil, dit Norbert Millevoye, cependant qu'il se met violemment à pleuvoir. Une pluie qui rebondit bruyamment sur le toit en tôle de la concession, comme si une centaine de rats paniqués couraient dessus en tous sens. Et quelque chose pulse dans le sein droit de Savina. Une sorte de petit crépitement ou de pétillement. Ce sein droit qui pétille, voilà un mois que ça dure. Pas exactement désagréable, mais tout de même légèrement inquiétant. Un nouveau symptôme. Mais de quoi ? Des rats, il y en a quelques-uns chez nous, pense Savina Helberg. Toutes les nuits, on peut les entendre de l'autre côté des cloisons de nos chambres, si proches derrière la tête de lit qu'on s'attend à les voir surgir dans la pièce. Mais certainement pas les mêmes que ceux qu'on entendait dans notre appartement de Paris. Certainement des rats moins sales et moins affamés. Elle doit admettre que depuis qu'ils vivent à la campagne, elle accumule les symptômes, constamment un nouveau symptôme. Douleur sourde dans un doigt, sensation d'engourdissement dans les pieds, bourdonnement d'oreilles, et maintenant ce pétillement du sein. Alors que mon frère, pense-t-elle, rien, un corps muet, un corps qui le laisse tranquille. Nous sommes abandonnés de tous, se dit-elle, c'est une réalité. Nous sommes seuls. Une nouvelle voiture, se dit-elle, un nouvel élan. Rien de futile dans cet achat, contrairement à ce que dit mon frère. De toute façon, je ne suis pas contre un peu de futilité. La futilité comme contrepoison. Sauter sur toutes les occasions de futilité. Son frère s'est levé pour aller observer la pluie tomber sur le parking de la concession. L'eau ruisselle sur les hautes vitres. Au-delà, Savina distingue quelques voitures tourner lentement autour des ronds-points de la zone commerciale. Ronds-points qui ne mènent nulle part, pense-t-elle, une absurdité régionale, l'absurde orgueil des mairies locales. Elle distingue également que son frère a allumé une cigarette. S'imagine-t-il que le bruit de la pluie va couvrir l'odeur de cette cigarette ? Elle se rappelle leur père fumant des cigarettes sur son lit d'hôpital. Il est un fait que leur père n'était pas dans cet hôpital pour une question de poumon, pas non plus pour un cancer. Aucun cancer n'a jamais été répertorié chez les Helberg. Chez les Helberg, on meurt d'angoisse, pas du cancer. Angoisse éprouvée à s'attendre au cancer. Quoi qu'on ne sache pas exactement de quoi leur père est finalement mort, bien calé sur ses oreillers, face à son plateau repas du soir. Alors qu'elle et son frère venaient de le quitter pour aller au cinéma voir un film avec John Wayne. Film dont elle a conservé quelque part le ticket d'entrée. La fumée de ses cigarettes interdites, fumée à l'hôpital. Jean Helberg la recrachait dans un petit sac de plastique à fermeture coulissante qui avait contenu du coton et que Savina allait ensuite laisser s'échapper à la fenêtre.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
Que diriez-vous d'un toit ouvrant ? demande Norbert Millevoye. Sur ce modèle de véhicule, nous proposons un toit ouvrant panoramique, tout électrique bien sûr. Pour 1250 euros, vous avez l'un des toits ouvrants électriques les plus panoramiques du marché. Je ne sais pas, dit Savina, qui ne mesure pas ce que peut apporter un toit ouvrant, qui envisage prioritairement tout véhicule comme un refuge, une séparation d'avec les forces extérieures, potentiellement hostiles. Non, dit-elle à Norbert Millevoye, je ne vois pas vraiment la nécessité d'un toit ouvrant. Et Norbert Millevoye acquiesce. Ce véhicule, dit-il, bénéficie déjà de pléthore d'options d'origine. Allumage automatique des feux, déclenchement automatique des essuie-glaces, caméra de recul, assistance au freinage. Comprenez que vous avez des capteurs partout. Capteurs de pluie, capteurs d'obscurité, capteurs de danger. Que d'innovation, dit poliment Savina. C'est que depuis votre dernier achat, nous sommes entrés dans l'ère de la voiture intelligente, dit Norbert Millevoye. Pas de toit ouvrant donc, dit-il en se remettant à son écran d'ordinateur. Peut-être, pense Savina, conserver notre ancienne voiture en secours, la conserver comme un souvenir. Elle se retourne et la voit garée dehors sous la pluie, sale, déglinguée, aussi pathétique qu'un animal sur le point d'être abandonné. Comment s'en sortiront-ils, son frère et elle, avec cette nouvelle voiture, où il n'y aura, semble-t-il, pratiquement rien à faire que de tenir le volant? Comment s'en sortiront-ils tout court, pense-t-elle, avec ou sans nouvelle voiture, quelle différence? Elle n'est soudain plus tout à fait certaine d'avoir fermé les fenêtres du salon. Si elle ne l'a pas fait, la pièce est en train de se remplir d'humidité, humidité qui ne se ressent pas ici, dans l'air sec de la concession automobile, mais qui dans leur maison est permanente, imprègne tout, l'oblige à se coller au vieux radiateur, dans le calme mortel, le mortel calme campagnard, avec assis à l'autre bout de la pièce, Paul, constamment plongé dans sa philosophie, constamment écrivant et constamment jetant tout, chaque soir brûlant tout dans la cheminée avant de se remettre au travail, le feu même pas éteint, cramponné à sa table. Basculer dans la folie. L'affaire d'une seconde, pense Savina en regardant son frère qui revient s'asseoir. Pâle, note-t-elle, le visage inexpressif. Que pense-t-il ? Qu'a-t-il réellement en tête? Voilà une question qu'elle se pose continuellement depuis qu'il partage cette maison à la campagne. Car Paul Helberg parle au fond très peu, contrairement à celui qui a été le mari de Savina, un homme effroyablement enthousiaste. De même celle qui a été la femme de Paul, une femme effroyablement enthousiaste. Et aujourd'hui, quelque part, on ne sait où, l'inquiétante addition de ces deux enthousiasmes, pense Savina, qui préfère les hommes qui parlent peu, les hommes sombres. Elle préfère donc vivre avec son frère qu'avec celui qui a été son mari. Pour ce qui est du quotidien, un frère plutôt qu'un mari. « Mon frère ne m'abandonnera pas », pense-t-elle. « Nous irons au Portugal. Au printemps, nous ferons nos valises. Nous les mettrons dans ce coffre tout neuf de la nouvelle voiture et nous roulerons jusqu'à Lisbonne, jusqu'à Prague, jusqu'à Tanger, jusqu'au désordre de n'importe quelle ville. Nous roulerons vers un futur parfait. Dans une nouvelle voiture, les gens ont l'air heureux, pense-t-elle, alors que Norbert Millevoye relève la tête de son ordinateur, s'apprêtant sans doute à leur donner un prix. « Excusez-moi, dit-il, pour ces dents qui me manquent. »« Oh, dit Savina, il vous manque des dents ? Je n'avais pas remarqué. » C'est mon infarctus, dit Norbert Millevoye. C'est-à-dire que mes dents sont tombées après mon infarctus. Je ne savais pas, dit Savitin, que les dents tombaient après un infarctus. Après un infarctus, ce sont les os qui trinquent, dit Norbert Millevoye. Quoi qu'il en soit, je voulais juste que vous sachiez que c'est temporaire. En temps normal, je suis plus souriant, mais on ne peut pas vendre des voitures avec un sourire édenté. Une dentition correcte, c'est le minimum qu'on puisse attendre d'un vendeur de voitures, a fortiori de voitures neuves. Je vous en prie, c'est sans importance, dit Savina, qui maintenant imagine ici, dans la concession, l'infarctus de Norbert Millevoye, son soudain effondrement au milieu des véhicules exposés, aussi robustes qu'indifférents. Naufrage. songe Savina Hellberg. Et elle regarde son frère, vraiment très pâle. Qu'il tienne, se dit-elle, qu'il tienne jusqu'à la nouvelle voiture. Nous ne repartirons pas d'ici sans voiture, dit-elle à Norbert Millevoye. Nous allons vous acheter cette voiture, n'est-ce pas, Paul ?
Oui, dit Paul Hellberg en redressant la tête.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui en rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.